Bonjour, Yule avec vous pour vous faire découvrir un peu plus mon pays, la Chine. 一, habiller, 食, manger, 住, se loger, 行, marcher sont les quatre éléments fondamentaux de la vie d'un Chinois. Je vous propose aujourd'hui mieux connaître les réalités du transport en Chine. Un transport qui doit s'adapter au développement faramineux du commerce et du tourisme. Pour faire court, il faut distinguer trois régions, d'ouest en est, séparées grosso modo par d'abord la frontière ouest, et puis une ligne Lanzhou, Chengdu, Kunming, ensuite une ligne Beigan, Zhengzhou, île de Hainan, et à la fin la côte est. La première région est formée du désert de Taklamakan, puis du désert de Gobi, au nord et du Tibet. Lhasa, puis du Sichuan et du Yunnan au sud, au faible développement économique. La deuxième région de moyenne altitude est encore à majorité rurale. La troisième région, hormis la Mongolie sud et la Mandchourie au nord de Beigan, est le poumon économique principal. Dans cette région, en gros, au nord domine le secteur primaire d'extraction de matières premières. Au sud, le secteur manufacturier, le Made in China, qui en 20 ans a remplacé le Made in Taiwan. Voie ferrée. Le train transporte plus d'un milliard de voyageurs sur une moyenne de 500 km et 2 milliards de tonnes de fret sur une moyenne de 800 km. À quelques exceptions près, train manchourien, avant l'arche russe, ligne dite du Tonkin vers le Vietnam, avant métrique. Le réseau chinois est à voie normale. Son étendue était le 75 000 km en 2005, prévision pour 2020, 100 000 km. Mais cela sera encore bien insuffisant en quantité et en qualité. En quantité, les lignes sont saturées. Il faudra porter nombre d'entre elles en double voie. En qualité, le trafic passage montera progressivement à l'est à une vitesse de 160 km par heure, avec une ponctualité assurée. Aussi, la Chine prévoit la construction de lignes à grande vitesse, LGV, dont les deux lignes principales, Beigan-Langan-Shanghai et Shanghai-Hong-Kong. Ces LGV seront aussi modernes que celles où roulent les TGV ou le KTX coréen. Les autorités chinoises ont écarté l'idée d'un train à sustentation magnétique car trop coûteuse. Transport routier. Les routes voient passer 15 milliards de voyageurs sur une moyenne de 530 km. Et les routiers transportent 12 milliards de tonnes de fret sur une moyenne de 600 km. Routes, 1,4 million de kilomètres, soit environ 1000 km par million de personnes. Ce réseau est pauvre. Aux États-Unis, 25 000 km par million. De 30 millions de kilomètres d'autoroute seulement fin 2003. L'objectif est d'atteindre 70 000 kilomètres en 2010, 5 000 kilomètres par an, soit 40 milliards d'euros par an. Malgré cela, l'infrastructure routière est déplorable avec une vitesse moyenne de 20 à 60 kilomètres par heure. Certaines routes sont surchargées de camions et sont très dangereuses. Des portions complètes de grandes routes sont dans un état éprouvant pour le voyageur comme pour le conducteur. Les accidents sont cependant assez rares et compte tenu de ces conditions. La façon de conduire est très particulière. Souvent la priorité est au plus gros. Et comme les camions sont les rois, il convient d'anticiper sur leur trajectoire. Le nombre d'aéroports. Le nombre d'aéroports est 489, dont 324 avec des pistes goudronnées en 2000. Après une grosse reconcentration étatique en 2002 pour éviter la dérive dans ce domaine de haute technologie, trois compagnies sont à taille égale. Air China, China Eastern Airlines et China Southern Airlines. Ces trois compagnies étant équipées d'avions récents, tant Boeing que Airbus. Transport fluvial. Les fleuves et canaux transportent un fret de 1,5 GT sur une moyenne de 100 km. Le cabotage en transporte un peu moins sur 400 km. Le monopole de Hong Kong crée une distorsion des flux. Actuellement, le cabotage pallie la carence de la route. Moins rapide, mais beaucoup moins cher. Voies navigables. 110 000 km en 1999. Essentiellement le réseau du Yangtze et du Grand Canal, débouchant sur Shanghai, et celui de la rivière des Perles, débouchant sur le ZES de Shenzhen, Canton, Macao, Hong Kong. L'extension des ports. Hong Kong a quasiment fini sa croissance. Son avance, due à son statut de porte de la Chine, disparaît avec la création des ZEE, zones économiques exclusives ou Kaifaku. En 1985, toute la côte devient ouverte aux capitaux étrangers, dans la limite de la règle des 51% pour mettre en place des industries exportatrices. Les tarifs de Shenzhen concurrencent Hong Kong. Il en résulte une croissance vertigineuse et Shenzhen doublera Hong Kong vers 2010. Mais sur toute la côte, il en est aussi. La région de Fujian face à Taïwan ont dévoré la petite république et les ports de Xiamen, Guangzhou et Fuzhou ont explosé. Sous le 30e parallèle, Ningbo épaule Shanghai. Sous le 35e, Qingdao égoule la production de Xi'an et Zhengzhou. Enfin, Tianjin est le port de Pékin, avec Dalian comme avant-poste. Qinhuangdao reste plutôt un port vraquier, où se sont chargés des immenses quantités de charbon, dont ont besoin les centrales électriques du Sud. Un port chinois est administré par le Matridim Bureau, co-entreprise financement. Et par le Bord Group qui a en charge les installations. Ces installations deviennent gigantesques à la mesure des bateaux. Des portes condamnées immenses qui exigent une profondeur d'au moins 14 mètres. Des crues des portiques de mise en quai portent 40 tonnes. Leurs flèches s'allongent à 60 mètres pour traiter 23 rangs de conteneurs. Tout cela est à la démesure du développement économique et commercial de la Chine. Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Le transport en Chine avec Yu Lei. Au revoir à vous, à la prochaine.